Bonjour Alain Chambard, bienvenue au studio de Radiola.
Merci bien.
Vous faites partie du collectif du Roubion, un collectif d'habitants de Bourdeaux qui s'est constitué pour accueillir une famille au sein de la communauté du village. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous raconter quel a été le cheminement pour arriver à cette envie collective d'accueil et d'intégration d'une famille étrangère à Bourdeaux?
Alors, juste pour dire, pour préciser, c'est un collectif qui est sur la vallée du Roubion.
C'est
justement pour ça qu'on
large.
S'appelle collectif du Roubion. Et c'est nous, ce qui nous intéressait, c'est-à-dire d'éviter l'esprit de clocher au départ et de se dire on voulait travailler justement en réseau et donc à plusieurs. Donc dès le départ, c'est ça. Ben, l'initiative du projet, en fait, c'est parti d'une élue, Martine Dessus plus précisément, qui est membre du conseil municipal et qui souhaitait que Bourdeaux accueille une famille migrante. Comme ils se sont retrouvés en minorité au sein du conseil municipal, le maire avait dit qu'il serait d'accord de mettre à disposition un appartement, à condition que ça soit les citoyens qui se saisissent de la problématique. Donc il y a eu un appel qui avait été fait d'abord une première fois dans la gazette de la commune. Ça n'avait pas porté beaucoup de résultats. Et puis un jour, en discutant avec Martine Dessus, moi je lui ai dit, bah, écoute, comme je m'occupe du cinéma, je te propose, on projette un film qui est en rapport avec l'accueil. Et on voit si effectivement il y a suffisamment de personnes qui sont partantes pour se lancer dans le projet. On avait passé le film qui s'appelle Une famille syrienne. Alors c'était vraiment tout à fait par hasard, parce qu'avant on ne savait absolument pas si ça serait une famille syrienne ou non qui viendrait sur Bourdeaux. Il s'avère que là, ce soir-là, on savait que ça serait une famille syrienne qui viendrait si jamais on se lançait dans le projet. Et on s'est retrouvé quasiment une trentaine de personnes à dire « Banco, on part ».
Une trentaine de personnes, c'est beaucoup pour
oui,
un départ.
Oui. Donc du coup, c'était vraiment le point de départ, quoi.
Et vous avez réussi à ramoter plus de personnes au fur et à mesure ?
Oui, alors d'abord, nous, on a eu la chance, on est allé voir le diaconat protestant qui accompagnait, parce que c'est eux qui jouaient le rôle de pouvoir faire toutes les démarches auprès de l'OFPRA pour accueillir une famille, et qui nous ont donné aussi des adresses d'autres collectifs, donc qui avaient déjà de l'expérience. Et c'est à la rencontre de ces autres collectifs où nous, on s'est dit, ben voilà, il faut absolument que l'on se structure. Et en se structurant, l'avantage, eh ben, on s'est rendu compte que ça permettait à différentes personnes de pouvoir s'investir, chacun à la hauteur de ses moyens, dans le collectif et en se rendant utile. Donc du coup, on était 30 ce soir-là, maintenant on est 70 dans le collectif.
Quelles associations vous êtes allés voir sur des associations du territoire ?
Alors on est allé voir Alors on avait déjà invité plusieurs fois le collectif de Nyons, l'association Espoir de Dieulfi qui était venue nous rencontrer, et puis on est allé rencontrer le collectif de Montboucher qui était quasiment l'un des tout premiers collectifs à accueillir une famille migrante sur leur commune. Et du coup, on s'est vraiment, nous, inspirés de leurs compétences, quoi.
Vous me disiez en préparant cette entrevue que Bourdeaux a toujours été une véritable terre d'accueil. C'était en fait une évidence de renouer avec une sorte de tradition ?
Je pense que, de toute façon, quand on arrive à Bourdeaux, je pense qu'on a cet héritage-là, quoi. Alors, ce qui est vraiment super, c'est de se dire que dimanche, par exemple, à Bourdeaux, à midi, vont se retrouver une famille kosovarde qui était là il y a 20 ans et qui tenait absolument à être présente le jour, 20 ans après le jour où ils sont arrivés à Bourdeaux. Et ils vont pouvoir rencontrer la famille syrienne qui aujourd'hui est accueillie. Et moi, en participant par exemple à des débats, des soirées sur des films et tout, j'ai appris qu'à Bourdeaux, on avait accueilli aussi auparavant une famille chinoise, ou un Chinois, au moment des événements de place Tiananmen, qui avait aussi un Arménien qui avait été accueilli. Et puis de se rendre compte de façon qu'à la dernière guerre, quasiment tout le monde à Bourdeaux accueillait chez soi des personnes à cacher, quoi.
Mmh. Une fois cette première impulsion donnée, comment s'est structuré ce collectif ? Qui en faisait partie ?
Eh ben, on fait partie qui souhaite participer, qui souhaite venir rejoindre, qui souhaite venir mettre ses compétences à disposition. Alors c'est absolument génial, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment très compétentes pour tout ce qui est aménagement de l'appartement et tout. Donc ça veut dire que pendant l'été, comme on savait que la famille allait arriver à l'automne, eh ben, ils ont travaillé pendant tout l'été pour aménager. Ceux qui avaient des compétences dans le scolaire se sont investis au niveau du scolaire. Après, on a besoin énormément de chauffeurs, parce qu'il y a quand même pas mal de déplacements à faire. Du coup, il y a un certain nombre de personnes qui sont inscrites dedans. Il y a aussi la partie pôle médical. Donc, on a la chance d'avoir deux médecins et une infirmière. On a la chance aussi maintenant d'avoir des traducteurs, à savoir qu'on s'appuie sur les premières familles syriennes accueillis sur le territoire, notamment la famille Aldiab qui est accueillie sur Bordeaux, et plus Mounira Arbak qui, lui, est habitant dessous. Donc voilà, on s'aperçoit qu'à chaque endroit, on a besoin de personnes avec leurs compétences, leur temps, que ça soit 5 minutes ou que ça soit plus. Et du coup, c'est ça qui est vraiment génial, quoi.
Et vous avez monté une association ?
Non, alors c'est justement... Au début, on se posait la question de savoir l'association et tout. Alors, association, ça veut dire que du coup, il y a un président, il y a un trésorier, tout ça. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'égalité des statuts, forcément, ça joue. L'avantage, comme tout est géré...
Vous voulez dire que c'est moins égalitaire ?
Voilà. Donc du coup, nous, comme on s'appuie par le diaconat protestant, tout l'argent que l'on a récolté, c'est le diaconat protestant qui l'a perçu et qui le met forcément à notre disposition. Du coup, ce n'était pas nécessaire pour nous de se monter en association. Et donc, on est resté un collectif.
Combien de temps il a fallu avant de pouvoir accueillir la famille ? Vous parlez des préparatifs, tout ça, ça a pris combien de temps finalement ?
Alors, nous, le film, il est passé en février.
2018.
Et la famille est arrivée en octobre 2018. Alors au début, on trouvait ça long. Et puis finalement, on se rend compte que tout le temps qu'il a fallu pour, entre le film et la décision de se monter en collectif et l'arrivée de la famille, en fait, tout ce temps nous a permis de nous structurer. Et on se rend compte que c'est absolument génial parce que on avait souhaité faire une réunion municipale pour dire informer la population parce que forcément, il y a des craintes. Mmh. Forcément, il y avait des peurs et forcément, il y avait des oppositions. Et nous, ce qu'on souhaitait, c'était absolument pouvoir en débattre avant que la famille arrive plutôt que ça soit elle qui subisse d'éventuelles agressions, entre guillemets, quoi. Et lorsque toutes les questions qui nous étaient posées ce soir-là, ben, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment, vraiment mis à profit le temps qui nous avait été donné pour pouvoir nous structurer et de se rendre compte que ben on avait pensé, on avait bien balayé. Donc voilà,
c'était... Donc vous étiez prêt en fait, vous vous êtes rendu compte que, que c'était bon.
Oui, les derniers jours, on les a trouvés un peu longs, quoi.
À quel moment, vous avez rencontré, vous avez vécu votre première rencontre avec cette famille qui allait devenir bourdeloise ?
Tout de suite, quand ils sont arrivés à l'aéroport de Lyon, en fait, j'ai eu la chance de faire partie des deux personnes qui sont allées les accueillir à Lyon. Donc, dès qu'ils sont arrivés à Lyon-Saint-Olas, j'étais là, c'était mon premier contact avec eux, quoi.
Et vous aviez un traducteur ou comment ?
Oui, oui. Alors, ce jour-là, il y avait une personne du diaconat protestant qui parlait leur langue et tout. Alors après, on s'était divisé en deux voitures. Moi, j'étais plutôt avec la partie avec les hommes. Et la personne qui conduisait le véhicule, elle était marocaine. Donc du coup, ce n'était pas forcément le même arabe. Mais en fait, on s'est rendu compte que la communication passait tout de suite, quoi.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Vous les avez ramenés tout de suite au village ?
On les a emmenés tout de suite au village. Donc, le temps que le diaconat leur explique toute la partie administrative et tout. Donc, nous, on s'est retrouvés dans le parc avec les enfants. Et moi, je me suis retrouvé à jouer au foot avec les garçons. Et les filles étaient avec les femmes du collectif. Et puis après, le soir, on a partagé avec eux leur premier repas. Et puis, bien entendu, après, on les a laissés tranquilles, quoi.
La famille Chebli est arrivée au mois de novembre,
oui.
C'est ça ? Quelles sont les conditions d'accueil ? Comment on travaille à ces conditions d'accueil une fois qu'ils sont là ? Quel travail ça implique, en fait, de les accompagner ? Parce qu'il ne suffit pas de les déposer là, j'imagine, ça n'a aucun sens.
Mais alors, c'est déjà les accompagner dans toutes les démarches. Alors, on s'aperçoit au niveau scolarité, alors on s'aperçoit que les choses ne vont pas à forcément la même vitesse. Autant les enfants qui sont en école primaire, ils sont arrivés un jeudi, le lundi, les deux enfants scolarisés en école primaire ont été à l'école dès le lundi.
Wow.
Les élèves, ceux qui vont au collège, eh ben en fait, eux, il faut qu'ils soient testés par le CIO. Et donc, ils avaient eu un rendez-vous
au CIO.
Centre d'information et d'orientation.
D'accord.
Donc, c'est lui qui
prend les tests au niveau du français, c'est ça ?
Oui, au niveau des mathématiques et tout, pour savoir à quel niveau de classe on va les mettre. Et puis après, essayer de trouver le collège qui pourrait les accueillir. Nous, on avait déjà fait toutes les démarches auprès du collège de Dieulfi. Donc, on a eu la chance de pouvoir rencontrer M. Ferry, qui est absolument ouvert par rapport à l'accueil de ces personnes. Et du coup, c'est vrai que c'était déjà pour nous, c'était un grand soulagement de tomber sur une telle personne, quoi. Mais du coup, on trouvait quand même que les choses étaient longues. Donc ça veut dire qu'il faut quand même accélérer, il faut pousser pour que les enfants soient scolarisés. Donc ils ont été scolarisés qu'au mois de janvier. Donc on avait trouvé quand même il y avait beaucoup de temps. Après, bah, c'est accompagner, faire toutes les démarches aussi pour que la petite puisse aller à la crèche. Il y a toutes les démarches, on se rend compte, médicales. C'est-à-dire qu'ils ont, eux, la famille El-Chebli a passé 7 ans dans un camp au Liban. Et en fait, ce qu'ils nous expliquaient, c'est que... les soins, c'est énormément. Les médecins libanais en profitent et demandent des milliers de dollars pour faire les soins. Donc, bien entendu, ils ne les avaient pas. Ils ne se soignent pas. Et c'est là où on se rend compte, quand ils arrivent, il y a tout ça à faire. Donc, il y a tout cet accompagnement aussi au niveau des soins. Il faut anticiper tous les transports. C'est-à-dire qu'il y a les transports pour les Restos du Cœur. On a la chance d'avoir le Resto du Cœur à Dieulfi. Mais ça veut dire que nous, de Bordeaux, il faut les conduire. Donc, c'est toutes les semaines. Après, il y a tous les soins pour les enfants. Donc, il y a tous les soins dentaires. On se rend compte qu'il y en avait à faire. Après, il y a aussi... À partir du moment où ils sont allés à la rencontre de l'OFI, donc du coup, attribue des heures de français. Donc là, Ibrahim vient de finir aujourd'hui ses 200 heures de français, mais ça veut dire que tous les jours, il faut des chauffeurs pour l'emmener à Dieulfi ou à Montélimar, et après, vice-versa, de retourner chercher, de les ramener. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre en place. C'est pour ça que nous, on s'est structuré, on s'est mis 3 coordonnateurs pour pouvoir avoir une vision de tout l'ensemble. Et de se dire, tiens, là, tel jour, il faut quelqu'un pour accompagner. Tel jour, il faut quelqu'un pour garder les enfants parce que les parents ont rendez-vous à tel endroit. Voilà, c'est un peu tout ça le travail, quoi.
Vous cherchez peut-être encore des relais, du coup, des personnes bénévoles supplémentaires
Pour l'instant, non, ça va.
Ça arrive à tourner.
Oui, là, ce qu'on se disait ce matin, on faisait un bilan en disant qu'on est vraiment content parce qu'on se rendait compte que finalement, l'accompagnement a commencé le 13 novembre. On est au mois de mai. Et en fait, à chaque fois qu'on a besoin d'un service, mais quasiment on a la réponse dans les 5 minutes qui suivent. Donc ça veut dire que ça n'a pas été que dans les 5 premiers jours où les gens sont vachement contents, ils sont là et tout. Mmh. Non, les gens sont vraiment inscrits dans le temps, quoi. Et c'est ça qui est vraiment génial, quoi.
Qu'est-ce que vous avez appris, vous, personnellement, au cours de cet accueil ?
D'abord, j'ai appris à travailler avec les gens que je côtoyais comme ça dans mon village. C'est-à-dire que d'habitude, on se croisait. Et là, j'ai appris à faire ensemble. Ce qui est vraiment super, c'est de se rendre compte que ça fonctionne. Je crois qu'il y a une grande confiance et un grand respect les uns des autres. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de me dire que je m'inscris dans une histoire, l'histoire d'un village. L'histoire, justement, tout à l'heure, on parlait de l'héritage de cet accueil du pays de Bordeaux. Mais me dire, en fait, je ne m'aimais pas dans ceux qui m'ont précédé. J'espère savoir transmettre ça à ceux qui nous suivront. Donc voilà, c'est tout ça qu'on apprend. Et puis après... on apprend forcément des gens qu'on accueille, quoi. Donc, moi, personnellement, je me suis lancé tous les samedis matins, je prends des cours d'arabe avec eux. Et donc, du coup, voilà, je me suis lancé là-dedans. Je ne me savais pas forcément capable de gérer un groupe aussi nombreux. Mm-hmm. Et puis, je me rends compte que finalement, ça fonctionne bien. C'est assez simple. Je ne me sentais pas forcément capable de mener des débats. Ça m'a obligé à le faire aussi. Donc voilà, donc je me rends compte que ça me permet de changer, d'évoluer. Donc voilà, je m'enrichis, quoi, en fait.
En quoi, selon vous, cette expérience d'une communauté villageoise qui accueille pourrait inspirer d'autres villages à tenter l'expérience, à franchir le pas ?
Je pense que c'est surtout ceux qui, au départ, avaient peut-être un petit peu des doutes, des craintes, des peurs, et qui maintenant ne l'ont plus. Et qui, en parlant à d'autres personnes, d'autres villages, peuvent plus donner l'envie que nous qui étions convaincus dès le départ, quoi. Mmh. Et je trouve que la famille qu'on accueille, la famille Al-Chebbi, est tellement ouverte, hein, est tellement souriante, hein, tellement allée à la rencontre des autres, que j'entends plein de personnes qui ont complètement changé leur regard sur ces gens-là. Et c'est justement les personnes qui ont été convaincues par cette famille qui, à mon avis, feront en sorte que ça donne envie à d'autres de pouvoir le faire, quoi.
Mais ça donne envie, forcément.
Oui. Oui, 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 oui. Oui. De toute façon, il n'y a qu'à voir sur le territoire. Quand on voit le nombre de familles accueillies sur Dieulfi, quand on voit nous à Bordeaux, après à Sceaux, on voit que c'est une autre manière de faire. C'est-à-dire que c'est un week-end par mois où ils accueillent des migrants. Après, il y a Pont-de-Barré avec l'association Chafal, la nouvelle association à Dieulfi avec l'association Passerelle. C'est-à-dire, voilà, c'est en train d'égrener, de se dire que ce qui est vraiment super, c'est que ce sont les citoyens qui sont en train de se saisir de ce devoir d'humanité, quoi.
Est-ce que vous avez également besoin de dons ?
Oui.
Parce que j'imagine que ça coûte de l'argent, tout ça.
Eh bien, quasiment tout l'appartement est équipé qu'avec des dons. On a eu des dons financiers, beaucoup plus que ce que l'on espérait. Dès que l'on a besoin de... Par exemple, à l'école, il y a eu un cycle sur les rollers et tout. Eh bien, on a demandé des rollers. Dans l'heure qui suivait, toc, on avait déjà tous les rollers et tout. On avait besoin de vêtements. Il y en a un qui est parti en classe de neige. Ils n'avaient pas d'équipement pour pouvoir partir à la neige. Et bien pareil, on a fait un appel. Et puis, dans la journée, on a tout eu. Donc, voilà. C'est ça qui me fait vraiment plaisir, c'est de me rendre compte que je suis en train de découvrir véritablement la solidarité qu'il y a dans notre pays. C'est-à-dire qu'on entend toujours parler de l'inverse, notamment en ce moment en période électorale où on parle de la montée du populisme. Et on se rend compte que ben, il reste quand même de l'humain dans les territoires. Quoi. Et c'est ça qui fait chaud au cœur. Quoi.
C'est ça qui nous sauve. Oui. Si on veut vous soutenir, vous envoyez des dons, on le fait à quelle adresse?
Alors, il faut envoyer au diaconat protestant, rue Faventine à Valence, et à l'ordre du collectif du Roubion.
D'accord, donc c'est très simple. Ouais. On envoie directement là-bas. Et puis, on peut suivre un peu vos aventures, si j'ose dire.
Oui, oui, oui.
Sur les Échos de Couspeau.
Voilà, exactement. Les Échos de Couspeau ou la Gazette du Roubion. Mais c'est vrai que le plus gros relais, c'est quand même les Échos de Couspeau. Oui.
Ben, merci beaucoup, Alain Chambard, d'être venu nous parler de cette expérience, de cette très belle expérience d'accueil.
Et ben, merci de nous avoir invités.
Sur le pays de Bordeaux. Et à bientôt.
Oui, oui, j'espère bien.
Radioella.media.